France Culture, il est 16h. Tout de suite, Révolution médicale, René Friedman.
Révolution médicale. Une émission de René Friedman. En partenariat avec le quotidien du médecin. Et aujourd'hui, nous sommes dans la semaine du baccalauréat. Toutes les tranches sciences de France Culture parlent du bac. Et nous, nous allons passer un temps sur SVT, une particularité du bac, bien entendu. Et ici, je reçois...
Marie-Noël Morin-Ganet.
Et...
Pauline Bertin.
Voilà, un professeur et un élève, un lycée. Et une façon concrète de rentrer dans le vif du sujet de cette thématique des sciences de la vie et de la terre qui sont une matière importante donc au baccalauréat. Alors tout d'abord, Marie-Noël Morin-Ganet, qu'est-ce qui vous a conduit à être professeur des sciences de la terre ?
Alors en fait, j'ai commencé par faire de la recherche et puis c'était un milieu, ma foi, qui était difficile. Je voulais avoir des enfants et puis je me suis vraiment posé la question à un moment donné, qu'est-ce que j'aime faire ? Il s'est rendu compte en fait que j'aimais en fait réfléchir sur les idées et j'aimais aussi accompagner les autres et en particulier les jeunes dans les apprentissages.
Vous aimez enseigner quoi ?
Voilà. Et c'est quelque chose qui me plaît vraiment énormément. Donc j'ai passé un concours d'agrégation et puis je suis enseignante depuis une douzaine d'années environ.
D'ailleurs, on voit bien votre goût de l'enseignement parce que vous avez publié nombreux opuscules, fascicules, revues, justement sur les sciences de la vie et de la terre pour aider les jeunes à mieux préparer cette épreuve du baccalauréat, en particulier en collaboration avec Le Monde, publié par Rue des Écoles. Et chaque année, je crois que vous le remettez à jour et vous tenez compte un peu de l'évolution. Ce qui est, à mon yeux, un grand avantage pour les élèves, c'est de voir que finalement, ce qu'on étudie un petit peu, des fois c'est un peu difficile à comprendre, la génétique qu'on va aborder tout à l'heure, ou bien le système neuromusculaire, mais ça peut être lié quand même avec ce qui se passe dans la vraie vie. Et je trouve que cette revue à laquelle vous participez avec des collaborateurs et des collaboratrices permet justement de relier. Alors c'est pas le bachotage quoi. C'est-à-dire que c'est apprendre de façon intelligente, relier sur la vraie vie, sur ce qui se passe et les découvertes. Est-ce que vous appréciez cette façon de faire, Pauline Bertin ?
Oui, c'est plus simple pour nous d'avoir un lien avec l'actualité qu'on suit plus et ça nous permet de nous intéresser aux sciences d'une autre manière. Et,
mais ça vous fait pas peur scolaire. Le non-bachotage ne vous fait pas peur de rater l'examen
parce que... Non, au contraire.
Au contraire. Ouais. Bon, écoutez, très bien. Pauline Bertin, vous êtes lycéenne, donc quel est votre projet professionnel?
Avoir mon bac déjà et puis après j'aimerais aller en prépa biochimie pour préparer le concours vétérinaire en France ou alors partir en Belgique pour aller en fac pour passer ce même concours.
Pourquoi la différence? Qu'est-ce qui vous attire?
Parce que la prépa me fait un peu peur et puis partir un peu ça fait du bien, prendre son indépendance.
Mais le but c'est quoi? C'est le contact avec les animaux?
Oui. C'est ça. Et je voudrais travailler dans les chevaux. Et en Belgique, l'animal de référence pendant les études est le cheval. Mm-hmm. Du coup, ça m'attire et voilà.
D'accord. Vous faites du cheval ?
Oui.
Ah, d'accord. Très bien. Alors, donc, nous sommes sur une thématique, comme on l'a dit, intéressante, variée. Hein, parce que entre la géologie, la médecine, on va dire, tout ce qui est médical, il y a une grande différence d'approche. Mais d'une façon générale, vous avez quand même, Marie-Noëlle Morin-Ganet, des conseils à donner, que vous mettez très bien d'ailleurs dans ce fascicule « Réviser son bac » avec le journal Le Monde. Quelles sont les règles de conduite que vous donneriez, que vous allez donner d'ailleurs à nos jeunes têtes blonde et brune?
Alors en gros là on est un mois avant le bac, donc on est vraiment dans les révisions. L'épreuve de SVT au baccalauréat c'est une épreuve en travaillant sérieusement. c'est quand même un coefficient qui est assez élevé et on peut avoir une note relativement correcte, voire bonne.
Donc alors, son coefficient, c'est de combien ?
Alors, c'est 6 pour les élèves qui font la spécialité physique ou maths et 8 pour ceux qui font la spécialité SVT sur un total de 38. C'est quand même une épreuve qui est importante. Les élèves vont bientôt passer là l'évaluation des compétences expérimentales.
On teste... Oui, parce qu'en fait, c'est ça, il y a plusieurs étapes.
Voilà, sur 4 points sur 20, on teste leur capacité à concevoir, réaliser, analyser des résultats lors d'un travaux pratique.
Donc ça, vous allez le faire, Pauline ? Vous ne l'avez pas encore fait ?
Non, c'est à la fin du mois.
À la fin du mois, d'accord. Voilà.
Et donc l'épreuve écrite de SVT va être sur 16 points. 3h30 d'épreuve écrite. La moitié des points, en gros, on teste la capacité à restituer des connaissances. On va être donc sur vraiment des connaissances du cours. Donc, il faut bien savoir le cours. Il faut avoir fait des fiches pendant l'année. Il faut réviser, revoir régulièrement. Ça, c'est très important. On sait très bien que pour la mémorisation, il faut revenir régulièrement sur ce qui a été appris. Et puis, la moitié sur la capacité à analyser des documents.
Donc, un pouvoir de synthèse et d'intelligence, on va dire, des données. Qui est surtout valable en deuxième partie. C'est
voilà.
Comme ça que vous annoncez les choses. D'une façon plus générale, les conseils de préparation d'écriture quand on va au bac, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes ?
Je dirais déjà bien prendre connaissance globalement de l'ensemble du sujet, avoir une stratégie, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire, bien gérer
Mais
son
vrai,
temps.
C'est vrai que l'énoncé du sujet, enfin bien comprendre l'énoncé du sujet, mérite qu'on se pose, parce que
oui.
Combien partent comme ça sur des biais quoi.
Tout à fait. Une fois qu'on a choisi en fait dans quel ordre on fait les exercices, il faut mieux assurer déjà ce qu'on sait faire. Après, on se donne un temps imparti. Et sur ce temps, on s'y consacre. On lit bien l'énoncé. On réécrit peut-être une ou deux phrases importantes. On a un surligneur. On surligne ce qui est important. On annote sur l'énoncé. Il y a tout ce travail-là pour décortiquer en fait ce qui est demandé. Qui est très important.
Vous acquiescez, jeune fille ?
Oui, je pense que bien étudier le sujet, c'est la réussite.
Et oui, c'est sûr que... En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'inverse, si
oui,
on part sur une mauvaise interprétation, on est sûr d'aller dans le mur.
Je pense que c'est important que le candidat veille à donner ce que le correcteur attend. Pas forcément ce que le candidat... a exactement en tête, mais ce qui est attendu par le correcteur. Et ça, c'est le point essentiel.
Alors, vous avez dit aussi un mot important comme conseil, c'est de gérer son temps et de répartir. Donc, vous conseillez de... On va là où on sait et on laisse un peu pour assurer.
Oui.
C'est ça. Et ensuite, s'il y a une question ou une thématique qu'on connaît moins, on va se la laisser pour après, pour essayer de faire le mieux.
Voilà.
Qu'est-ce qui se passe avec si ça ne marche pas et qu'il y a un oral de rattrapage ?
Alors, à l'oral de rattrapage, le candidat a 20 minutes pour préparer un sujet. Il a en fait deux thématiques différentes et on évalue autant sa capacité à restituer ses connaissances qu'à analyser des documents et à faire un raisonnement scientifique.
Vous-même, vous participez au choix des sujets ?
Non, je ne vous le dirais pas si je le faisais.
Non, mais je dis pas cette année.
Ça peut arriver. Il y a des professeurs qui sont cobayeurs de sujets,
oui.
Tout à fait.
Voilà, non, c'était dans ce sens-là. Voilà. Bien sûr. Donc, on reviendra, je pense, au cours de l'émission sur les thèmes généraux pour que ça rentre un peu sur la préparation, enfin sur la technique quoi, de passer cet examen. Aussi, il y a des questions qui sont posées. Un mode de question, il n'y a pas que des écrits à l'écriture, il peut y avoir des QCM ?
Oui, alors sur certains exercices, il peut y avoir une partie ou tout qui est sous forme de QCM. Alors, ce qu'il doit bien savoir, c'est que tous les QCM au bac en SVT se présentent toujours de la même manière. Il y a une question et 4 réponses possibles. Sur les 4 réponses possibles, il n'y en a qu'une qui est bonne, une seule. C'est-à-dire qu'il faut toujours cocher qu'une seule réponse parmi les 4. Il ne faut jamais en cocher 2, sinon ça invalide la réponse. Il faut toujours cocher quelque chose, parce qu'au minimum, on a une chance sur 4 d'avoir raison.
Quand vous êtes préparée, Pauline, avec les QCM ?
Oui, on a fait un bac blanc,
oui.
Donc il y avait un QCM.
Oui.
Et c'était le même modèle que ce que vient d'énoncer Mme Morganet, mais... Mais c'est pas l'exercice le plus difficile en général dans la classe. C'est l'exercice qui a été peut-être le mieux réussi parce que c'est des questions en général assez simples. Et on a le temps de se poser parce qu'il n'y a pas énormément de questions dans le QCM. Il y en avait 3 ou 4, je crois.
Alors, si ça c'est la partie la plus facile, qu'est-ce qui est la partie la plus difficile pour vous ?
Pour moi, c'est les documents.
C'est-à-dire
de... C'est la synthèse. Si on connaît bien son cours, en général, ça se réussit. Après, c'est aussi des questions d'écriture, savoir synthétiser. Mais pour moi, le plus difficile, c'est l'étude de documents, avec la question, la problématique. Parce que déjà, si on ne comprend pas les documents, c'est assez compliqué. Et ça demande vraiment un raisonnement scientifique. Donc, je pense que c'est ce qui est le plus difficile.
Mmh. Comment ça se passe dans votre enseignement avec les élèves ? C'est aussi la même réponse ?
Oui, alors Pauline part du sujet qui est l'exercice 2 de la partie 2, où il y a une problématique scientifique, il faut exploiter les documents pour répondre à cette problématique en utilisant ses connaissances. Et là, ce qu'on demande, c'est de bien saisir les informations dans les documents. Ça peut être soit les documents que l'élève a déjà vus, soit des documents totalement originaux qu'on peut avoir dans des petits articles de recherche. Et puis, il faut construire un raisonnement rigoureux qui réponde à la question. Donc ça, c'est la partie qui est la plus délicate souvent pour les élèves. Mais c'est aussi la partie la plus intéressante d'un point de vue intellectuel.
Dans les classes que vous faites actuellement, vous sentez quoi, une proportion importante de gens, d'élèves, j'entends, qui veulent aller vers les sciences de la vie et de la Terre ?
Alors, on est en S, on a beaucoup d'élèves en première et en terminale S. Il y en a beaucoup qui ne vont plus faire de sciences après, ça c'est clair. Il y en a certains aussi qui vont continuer, soit sur des écoles d'ingénieurs, un peu à la fac. Et il y en a aussi pas mal qui veulent aller en médecine.
Médecine et autres variantes qui se rapprochent. Forme de médecine des animaux, le vétérinaire et puis les autres, sage-femme, etc. On a tout ça. Alors venons-en maintenant peut-être au contenu, on reviendra sur la forme ensuite. Et qu'est-ce qu'on prend comme thème ?
Alors, ce qu'on proposait donc, c'est de travailler la partie 1, qui est la synthèse, ce qui s'apparente en gros à une restitution de connaissances, une dissertation, où en général, enfin, il y a toujours une problématique qui est posée. Il peut y avoir un document qui peut un peu aider. Il faut essayer de répondre de manière structurée, organisée à cette problématique à l'aide de ses connaissances. Donc, on proposait un premier sujet sur la partie génétique et évolution. L'énoncé est le suivant, décrire les mécanismes qui, en dehors de la méiose et de la fécondation, sont à l'origine d'une diversification des êtres vivants en vous appuyant sur des exemples précis.
Question, est-ce que sur ce mode-là, est-ce qu'il faut quand même traiter, puisque vous dites en dehors de la méiose, est-ce qu'il faut quand même faire un rappel ou pas ? Qu'est-ce que vous conseillez ?
Non, c'est pas du tout indispensable, il faut pas traiter méiose et fécondation dans le corps du sujet, à la limite, on peut le reprendre au début en introduction pour le mettre de côté. On a bien ici un énoncé qui limite clairement le sujet. Donc la phrase que je viens de dire, ça serait la phrase à recopier sur le brouillon, la phrase à surligner. Il faut bien voir en fait ce qui est demandé.
Vous auriez fait cela, Pauline ?
Oui, je pense. Je pense que j'aurais fait un rappel de la méiose et de la fécondation dans l'introduction et après j'aurais fait un développement sur les autres mécanismes. Et en conclusion, j'aurais rappelé...
Alors, qu'est-ce que vous auriez dit sur la diversité créée par la méiose et la fécondation, justement, en résumé ?
J'aurais dit que c'est... Enfin, si j'avais ce sujet, je pense que... Donc, en introduction, j'aurais dit la méiose et la fécondation, donc au cours de la reproduction sexuée, c'est une source importante de diversification
et
de brassage génétique et tout ça.
Pourquoi c'est une source de diversification ?
Parce qu'il y a des brassages génétiques.
Je suis un peu hors sujet, je suis d'accord, mais c'est juste pour...
C'est parce qu'il y a des brassages génétiques et des mutations qui peuvent intervenir, donc je pense que... Mais je me serais peut-être pas...
Non, je suis d'accord. Ouais. Sur le sujet tel qu'il a été posé,
ouais, je comprends.
Le piège est justement de ne pas rentrer dedans, même si vous connaissez cette partie par cœur, puisqu'on va voir ce qui n'est pas la méiose, mais qui joue dans la diversification. Mmh. Mais je voulais quand même tester, qu'est-ce que vous...
Alors, il y a le mot important qui est le mot de brassage génétique, lié à la méiose et lié à la fécondation, avec des phénomènes qui ont lieu au hasard. Et la reproduction sexuée va permettre en fait des nouvelles combinaisons alléliques au sein d'une population. Et donc faire apparaître des nouvelles combinaisons de caractères. Dans la diversification, on est dans l'apparition de nouveaux caractères.
Vous connaissez allèle, ce que ça veut dire ?
Je crois, que c'est des parties d'ADN, c'est ça, non? Oui. Et je sais que dans un schéma sur la méiose que j'ai appris, et qui est souvent pas dans ce type de sujet, mais bénéfique de mettre dans une synthèse, c'est donc les combinaisons alléliques, c'est ce qui va déterminer les caractères des individus. Et donc, s'il y a un brassage génétique, il y a des nouvelles combinaisons. Et s'il y a des nouvelles combinaisons, il y a de nouvelles caractéristiques.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, hein, le gène est le même, mais avec des petites variantes.
Exactement.
Il va y avoir quelques nucléotides différents qui vont donner donc, parfois des variantes. Donc, c'est ça, c'est le même gène, mais avec des variantes.
Donc, l'allèle, c'est en effet une des versions d'un gène. Cette partie est toujours délicate pour les élèves.
Oui,
gène,
bah
allèle,
oui,
localisation mais... chromosomique, on le sait très bien. Mmh, hein, ça demande beaucoup d'entraînement et d'exercice, en fait, pour y réussir.
Mais c'est déjà, oui, la compréhension, je dirais, haploïde, diploïde, ça vous est familier, ça?
Oui, haploïde, diploïde.
Très bien. Et puis, donc vous parliez tout à l'heure, encore une fois, on n'est pas rentré dans le sujet, là, on est un peu en dehors, mais on ne sait jamais ce qui peut tomber, ça peut être autre chose. Le brassage interchromosomique et intrachromosomique, qu'est-ce que vous connaissez là-dessus, Pauline, de ce qu'on appelle le crossing over?
Je sais que le crossing over, c'est un échange entre deux chromosomes, enfin deux chromatides, pardon, d'un même chromosome. Et donc c'est un échange et ça permet une diversification du vivant aussi. Mais je vous avoue que j'ai pas encore très bien révisé le bac, mais je vais
mais on y est. Non, mais on vous le fait pas passer aujourd'hui, mais on montre montre les points. Oui, non, mais ça c'est assez assez étonnant, c'est cet échange, hein, ouais, qui peut y avoir du matériel génétique, parce que finalement ce qui compte, hein, c'est que pour que tout fonctionne, c'est que tout le matériel soit là, hein, ouais, c'est-à-dire le nombre de chromosomes. Et ensuite, dans la mauvaise répartition qu'il peut y avoir des chromosomes, par exemple ce qu'on appelle des translocations, une partie des chromosomes peut venir sur un autre, ce qui fait que la personne qui est en face de nous, elle n'a aucun problème médical. Par contre, dans sa descendance, puisque vous connaissez la méiose, il va y avoir la possibilité d'un échange qui, lui, ne va pas être tout à fait intéressant, parce qu'il peut y avoir des anomalies. Donc, en un mot, il y a parmi nous, il y a des gens qui sont porteurs de translocations, qui ont donc un échange du matériel génétique dans la totalité des chromosomes, c'est-à-dire qu'il a toute l'expression normale. Par contre, ça peut se jouer dans la descendance, parce que la division va se faire à un moment où le chromosome n'est pas tout à fait ce qu'il devrait être. Donc, cette digression va nous ramener à la vraie question, telle que vous l'avez posée, c'est-à-dire qu'en dehors de la méiose, hein, quels sont les phénomènes qui peuvent jouer avec la diversité, la diversification, la diversité génétique.
France Culture, Révolution Médicale, René Friedman.
Alors, contribution à la diversité génétique en dehors de la méiose et de la fécondation.
Alors, on va faire ici un plan en fait en deux parties. Il faut dire globalement que c'est un sujet qui est classique et très proche du cours. La difficulté, c'est que souvent, c'est un cours que les élèves ne retiennent pas forcément bien parce qu'on est plus dans une suite, en fait, un catalogue, en fait, de notions. Donc, la logique est un petit peu difficile parfois à retrouver. Donc, dans la première partie, on parlera de la diversification due à des modifications qui touchent, qui affectent le génome. D'accord ?
Par exemple ?
Alors, il y a trois grands points à voir. Premièrement, il peut y avoir des modifications de l'expression des gènes de développement. Donc, les gènes de développement, c'est ceux qui contribuent à mettre en place les organes au cours de la vie embryonnaire. Les séquences codantes ne sont pas modifiées, mais si on a des modifications, des mutations qui touchent les séquences régulatrices, ça va pouvoir jouer sur la durée ou l'intensité de l'expression de ces gènes de développement et mettre en place, en fait, de nouveaux caractères.
Donc ça, c'est très intéressant pour vous, Pauline, qui voulait être vétérinaire, parce que on voit, par exemple, que la comparaison entre les animaux et les humains, il y en a plein, bien sûr, mais dans le thème de la reproduction, c'est les anomalies de la reproduction chez l'humain par rapport aux animaux. Parce qu'on est devant... Est-ce que vous savez combien un homme et une femme qui souhaitent avoir un enfant a de chances d'avoir un enfant?
Non, j'ignore.
C'est 25%. Vous n'avez que 25% de chance statistique, hein, bien entendu, si vous prenez un jeune homme, une jeune fille en âge de procréer, qui souhaite avoir un enfant, d'avoir un enfant 9 mois plus tard. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas très bien parce qu'il y a justement, chez l'humain en tous les cas, tout un tas d'anomalies. Il y en a beaucoup moins chez l'animal, et qui se reproduit d'ailleurs tard, hein, puisqu'il n'y a pas de phénomène de ménopause d'ailleurs chez l'animal, sauf chez l'orque et quelques singes. Donc je ne sais jamais, hein. Peut-être vous vous trouverez dans des eaux aquatiques,
c'est vrai.
On ne sait jamais. Donc nous sommes avec cette variante qui va jouer de façon non méiotique sur la diversification, la diversité plutôt, génétique.
Alors le sujet précisé qu'il fallait prendre des exemples précis, c'est le point un petit peu délicat parce que les exemples n'ont pas forcément été mémorisés. Au bac, il faut voir qu'on n'est pas très difficile sur le détail des exemples. Par contre, ce qu'on veut, c'est un exemple qui soit au moins mentionné, hein. Donc là, par exemple, soit l'élève prend ce qu'il a vu en cours, en activité, soit ce qu'il y a dans le livre, hein. Donc moi, dans ma classe, on a travaillé sur les nageoires pelviennes qui sont différentes selon les formes lacustres et marines des épinoches. Mais ça va varier selon les élèves.
Vous avez un autre...
Oui, j'ai un autre exemple.
Un autre
dans
exemple,
ma classe,
oui.
On a fait un autre exemple. C'est donc pour les gènes de développement, les variations de la taille du bec des pinsons de
Galapagos.
Qui s'explique par une différence d'intensité, de chronologie, d'expression du gène BMP4.
C'est un très bon exemple aussi.
Alors, qu'est-ce que vous en faites de la compréhension de cette variation, de cette, qui permet une adaptation, bien entendu, des animaux à leur environnement?
Alors là, on pourrait partir, mais on sort du sujet, sur tout ce qui est en fait sélection naturelle, puisque la modification en fait qu'on va avoir va pouvoir être l'objet d'une sélection naturelle, soit sélectionnée, soit contre-sélectionnée.
Absolument. Donc cette diversification nous amène quand même à un point, par exemple, il est dit, est-ce que vous savez le pourcentage de gènes identiques entre le singe et l'homme?
Non, je l'ignore.
On est vers 98%, 99%.
Ouais, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, entre les grands singes et l'homme, on est presque avec les mêmes gènes, sauf une petite variante, donc 2%, grosso modo, je ne sais pas exactement, qui font toute la différence, comme qui dit l'autre.
Alors, les élèves qui travaillent en fait sur l'origine de l'espèce humaine peuvent reprendre là aussi un exemple. Ils le voient en fait, la différence homme-chimpanzé et le rôle de l'expression des gènes de développement dans cette différence.
Parce que dans les gènes de développement, vous voyez, nous, on est comme médecins, on est préoccupés surtout par, comme je le disais, par l'échec de la reproduction, par le pourcentage élevé de fausses couches ou d'anomalies qui se révèlent. Et c'est vrai que la compréhension qui est en train d'avancer, mais doucement, de ce que sont les gènes de développement qui permettent, donc, dans chaque espèce, mais surtout chez l'humain, quelque chose qui est séquencé et qui donne ce que vous êtes devenu, hein, la chance que vous êtes devenu, que nous sommes devenus, est tout à fait fondamental. Hein. Pourquoi y a-t-il tant d'anomalies, je dirais justement, du développement, des gènes du développement, qui s'arrêtent ou qui dévient dans l'espèce humaine. Donc c'est des thématiques qui ont des conséquences pratiques, aussi bien chez les animaux, pour ceux qui s'intéressent, que chez l'humain. Vous aviez d'autres éléments
donc,
à rajouter.
Le second point, c'est le transfert horizontal de gènes. C'est un mécanisme qui est assez rare, mais qui existe, et on peut avoir en fait des gènes qui sont transférés d'une espèce à une autre. Et on a des exemples en fait, en particulier
chez
l'homme, on considère qu'il y a 8% de l'ADN humain qui serait d'origine virale.
Alors justement, il y a tout un chapitre qui peut être abordé sur l'origine virale du placenta.
Oui, tout
Alors,
à fait.
Qu'est-ce que vous en dites, professeur Morin-Gagné?
Donc, il y a des gènes qui codent pour une protéine qui est la syncytine, qui permet en fait la fusion de cellules, qui sont des gènes en fait d'origine virale. et l'expression de ces gènes permet la construction du plasma.
Pour le langage commun, viral, ça veut dire infection, destruction et maladie.
Oui, je ne suis pas spécialiste de cette thématique, hein, mais ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a un virus qui a infecté des cellules humaines et qui a fait intégrer une partie de son information génétique dans le génome de ces cellules. Pas des cellules humaines, des cellules de mammifères.
Voilà, donc
il y a un certain temps dans le passé.
Voilà, donc on a des rétrovirus hein, qui vont rentrer, voilà. Qui vont avoir un rôle important puisqu'ils vont donc s'insérer. En tous les cas, ils vont insérer leur partie d'ARN, puisque un rétrovirus est justement constitué d'ARN et il va intégrer l'ARN,
voilà.
Et l'accrocher le wagon.
Étonnant, c'est que l'existence du placenta, qui est une caractéristique particulière des mammifères et qu'on retrouve chez les grands primates, y compris chez l'homme, est d'origine virale. C'est ça qui est étonnant,
oui,
d'un point de vue évolutif.
Voilà, c'est-à-dire que l'apport de cette génétique liée à l'introduction d'un virus dans le développement va permettre cette particularité de la nourriture du fœtus in utero par rapport à d'autres modes, puisque là, il va y avoir donc ce placenta qui, comme vous le savez, fait une barrière entre, et en même temps un passage. C'est un lieu de passage du fœtus et de la mère, mais qui permet un filtre. Un filtre, il va permettre de laisser passer tout un tas de substances qui sont nécessaires à la croissance et aussi de permettre d'évacuer les déchets que construit le fœtus. Donc c'est assez étonnant de penser que dans l'évolution, de l'être humain, il y a effectivement des modifications de son génome qui sont liées à l'introduction d'ARN viral, rétroviral, qui se sont accrochés dans le génome.
Et l'idée qu'on peut en ressortir aussi, c'est que l'évolution, finalement, opère un bricolage au cours du temps.
Vous voulez dire que le hasard est quand même grandiose.
Voilà. Hein.
C'est vrai que... Bon, voilà. Donc, cette diversification non génétique, qu'est-ce qu'elle nous permet aussi d'aborder comme question ?
Alors, le dernier point qu'on voit après le transfert horizontal de gènes, c'est donc les phénomènes d'hybridation et de polyploïdisation. Alors, il va falloir définir un petit peu ces termes. L'hybridation, c'est la reproduction entre deux espèces différentes qui va donner un individu qui généralement vont être stériles puisqu'ils ne vont pas pouvoir réaliser la méiose. On observe ça en particulier plus souvent chez les végétaux. Ce qui peut se passer, c'est après un second événement, c'est-à-dire un doublement du nombre de chromosomes, une polyploïdisation. Et là, on va récupérer des individus fertiles qui vont pouvoir constituer une espèce.
Est-ce que vous connaissez chez l'humain les problèmes de quand il y a des chromosomes supplémentaires ?
Ça forme des anomalies, non ?
Oui.
Comme la trisomie 21, je crois que c'est l'exemple qu'on a vu en cours.
Voilà, trisomie, c'est-à-dire qu'il y en a trois au lieu de deux. Un de plus va provoquer des troubles souvent redoutables, bien entendu.
Alors là, comme exemple, parce que nous n'oublions pas notre sujet et nos exemples, on a les élèves travaillent à côté tout ce qui est en fait les plantes domestiquées et tout ce qui est blé tendre, blé dur, résulte de phénomènes en fait d'hybridation.
Oui, moi je suis centré sur les problèmes médicaux, évidemment, à chaque fois j'interviens, mais vous êtes plus large sur les phénomènes végétaux,
j'essaye
animaux.
Voilà, j'essaye aussi de récupérer des exemples qui viennent d'autres parties en fait du programme.
Bien sûr. Donc là, vous avez, dans ce domaine, la possibilité chez les végétaux.
Chez les végétaux, un blé tendre, blé dur qu'on utilise pour faire du pain, de la semoule, résulte en fait d'une évolution avec des phénomènes de polyploïdisation et hybridation au préalable qui sont faits de manière spontanée.
Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire des chimpanzés qui cassent les noix ?
Alors là, on arrive dans la deuxième grand thème, la diversification du vivant sans modification de génome. On ne touche plus au génome, mais par contre, il y a des nouveaux caractères, y compris des caractères comportementaux qui peuvent arriver. En particulier, ça va être vrai chez les mammifères, dont les primates et les grands primates, mais aussi chez les oiseaux, tout ce qui est transmission culturelle, apprentissage. On apprend de nouveaux comportements, on acquiert un nouveau caractère comme ça.
Et donc, l'exemple qui est pris souvent, c'est celui de casser des noix, une question de culture pour le chimpanzé.
Voilà, donc en fait, on s'est rendu compte que les chimpanzés étaient capables d'avoir des phénomènes en fait, d'apprentissage de génération en génération et d'apprendre des nouveaux comportements.
Voilà qui nous laisse rêveurs quand même. Hein, en tous les cas, nous fait réfléchir sur la part Là, finalement, vous abordez d'une façon générale la part du génétique et de l'épigénétique et de l'environnement, justement, environnement culturel en particulier, sur l'acquisition des compétences diverses des animaux et de l'homme, bien entendu. Peut-être nous on va prendre une petite pause avant de passer à la deuxième épreuve du bac, après Georges Brassens, qui montre bien qu'il faut étudier. Ah, on peut dire.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme
voilà, vous êtes sur France Culture, Révolution médicale, une émission de René Friedman en partenariat avec le Quotidien du Médecin, qui publie sur son site lequotidiendumedecin.fr les réponses faites à nos invités par les questions des internautes. Et aujourd'hui, les internautes du Quotidien du Médecin ont déjà passé le bac, c'est vrai, mais ils peuvent quand même avoir des enfants qui passent le bac, et ils s'imaginent que parce qu'ils sont médecins, eh ben la science est infuse et diffuse. Ce qui n'est pas le cas. Car nous le voyons bien avec Marie-Noëlle Morin-Ganet, professeure agrégée de SVT au lycée Montaigne, et Pauline Bertin, qui est lycéenne à ce même lycée, mais pas dans la même classe, n'est-ce pas? Vous avez un autre professeur. Nous abordons donc cette préparation au bac. Nous avons traité la diversité génétique tout à l'heure, et vous vouliez dire quelque chose, Pauline? Nous avons oublié quelque chose.
Oui, dans le deuxième grand point, donc sur la diversification sans modification du génome, on a parlé de la transmission culturelle avec les noix et les singes, mais on n'a pas parlé de la symbiose, et je pense que c'est un point important. Donc c'est l'association entre des individus d'espèces différentes, et cette association se fait que s'il y a un apport de bénéfices réciproques entre les deux individus.
C'est-à-dire que l'un vit sur l'autre, mais l'autre vit sur l'un.
Exactement.
Chacun s'apporte.
Et donc on peut donner un exemple, oui. Comme par exemple donc la capacité des plantes légumineuses à assimiler l'azote atmosphérique grâce à leurs associations avec des bactéries dans les nodosités de leurs racines. Donc c'est l'exemple qu'on a vu en cours en TP.
En TP, ouais. Qu'est-ce que vous faisiez en TP alors ?
TP, c'est les expériences.
Ouais, justement.
Et donc, on a disséqué les nodosités des racines. Et donc, voilà.
Vous avez vu de près ?
Exactement.
Vous avez touché ?
Exactement.
D'accord. C'est sympa, les TP ?
Oui, ça va.
Parce qu'en fait, vous avez deux heures.
Oui.
Deux heures de TP et deux heures
de cours. Et
deux heures de TP. Qu'est-ce que vous préférez ? Les TP ou les cours ?
Ça dépend des sujets, ça dépend des chapitres, mais les TP, j'aime bien. Ça permet d'illustrer ce qu'on fait en cours.
Mmh.
Et c'est une autre démarche, ça varie un peu, c'est sympa, j'aime bien.
Et vous, en tant que professeur, Morin Gagné, vous êtes pensez que c'est mieux les TP, vous pourriez les développer plus ? Faire des heures sup ?
On en fait déjà. Non, les séances, enfin, ce qu'on appelle les travaux pratiques, sont vraiment essentielles. Hein. C'est là où les élèves s'emparent d'un sujet, vont mettre en œuvre différentes pratiques, soit sur logiciel, soit microscopie, soit des manipulations, en fait, pour essayer de résoudre, en fait, les sujets qu'on leur pose.
Est-ce que vous utilisez les films scientifiques de temps en temps, parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par Paul Painlevé, qui a fait beaucoup de films scientifiques sur l'éclosion des œufs, sur la fécondation, sur plein de choses comme ça.
Oui, enfin maintenant il y a une grande variété des supports. C'est difficile de faire un cours de SVT sans utiliser un vidéoprojecteur, sans projeter les images sur lesquelles on travaille, les documents, donc on monte des films, il y a des animations sur internet qui sont bien faites, que les élèves peuvent retrouver chez eux, c'est vraiment très utilisé.
Oui, question Pauline, en tant qu'élève, vous utilisez beaucoup internet dans la préparation des cours, dans l'illustration ?
Oui, on utilise surtout le livre qu'on nous donne au lycée, au début de l'année. Et on utilise Internet. Déjà, moi, dans ma classe, on a les cours de physique-chimie qui sont sur Internet, un site Internet qu'a fait le professeur. Donc, on a nos cours en vidéo et tout ça. Donc,
mais là, par exemple, il y a quelque chose que vous comprenez pas bien,
cours
est passé. Est-ce que vous prenez l'habitude d'aller chercher ce que
vidéos,
ça veut dire polyploïde, haploïde, allèle, puisqu'on
voilà,
a posé cette question.
Il faudrait que je le fasse.
Maintenant, vous êtes au courant.
Exact. Mais oui, ça nous arrive, on trouve des vidéos. Après, c'est plus ou moins...
Il faut avoir du temps.
Voilà, ça hein. Suffit.
Et
voilà,
puis, pas faire des jeux vidéo à la place.
Exactement.
Je comprends. Donc, voilà, on a abordé une thématique sur la diversité génétique. Et comme le programme est quand même vaste, on va pas tout traiter, puisqu'on va pas parler de la géologie de la Terre. Quoique, c'est très intéressant, mais voilà, on peut pas tout faire. Donc, on va prendre peut-être un deuxième thème dans lequel, avant qu'on l'aborde, j'aimerais, professeur Marie-Noëlle Morin-Ganet, que vous redonniez quelques conseils pratiques pour nos jeunes qui vont passer le bac, avant que nous abordions le thème de neuromusculaire
ou le thème
de l'immunologie.
Plutôt, c'est souvent problème. Donc, on a vu un peu les conseils au début de l'épreuve. On va voir maintenant un petit peu les conseils aussi à ce qui concerne la fin de l'épreuve. Donc, il faut se laisser un petit peu de temps pour corriger, relire les erreurs de fond. C'est-à-dire, des fois, on met un mot à la place d'un autre. Relire tout ce qui est les erreurs de forme, tout ce qui est orthographe. Alors, on admet qu'un candidat fasse quelques fautes d'orthographe, hein, nous-mêmes on en fait, mais les fautes d'accord, les fautes sur les mots scientifiques sont quand même assez embêtants et ça joue sur l'avis négatif que peut avoir le correcteur du bac de la copie.
Le correcteur du bac, il va avoir une grille ?
Oui.
Oui, une appréciation générale quand même,
oui.
Qui sort un peu de la grille proprement dite. C'est un peu
Forcément son opinion.
Voilà.
On ne peut pas lire quelque chose, voir quelque chose sans se faire son opinion. Et la première impression, donc, en ce qui concerne la présentation, est aussi importante. Hein, des fois, on n'a pas envie de lire telle copie parce que c'est trop mal écrit, c'est mal présenté, c'est difficilement lisible. Ça joue. Même si on suit scrupuleusement le barème.
Pauline, vous écrivez bien ?
Je ne sais pas. La synthèse, en général, c'est ce que je réussis.
Non, mais l'écriture, vous êtes lisible ?
Oui.
Vous faites, prenez le temps quand même d'être lisible ?
Oui. Oui, en plus, dans l'épreuve du bac, enfin en tout cas au bac blanc, j'ai pas trouvé qu'on manquait trop de temps. Après, ça, je pense que ça dépend des documents, ça dépend des sujets de synthèse.
Bien sûr.
Mais oui, J'essaye de faire attention.
Parce oui, que parce c'est que c'est, vous avez entendu ce qu'elle a dit, c'est important. Et moi qui étais correcteur aussi, dans, pas du bac, mais d'autres examens, c'est vrai que l'aspect général fait qu'on est, on a une empathie ou au contraire, on ne l'a pas. Hein.
Exactement.
Alors après, on va être objectif et on va avoir aussi les connaissances.
Tout mais à fait, oui, on va avoir le fond.
Une,
hein.
On va avoir une variante quand même qui peut être importante.
L'autre point sur lequel il faudra insister, c'est l'importance en fait des schémas. Alors suivant les sujets, les schémas sont exigés ou il est conseillé d'en faire. Des fois, ce n'est pas la peine d'en faire, mais quand on en fait, ce qui est important, c'est des schémas bien lisibles, grands, pas tout petits, en couleur, et qui soient bien légendés. Ça, vraiment, c'est important, surtout quand le schéma
quand
est
quand vous dites légendé, avec flèches qui montrent ou...
Voilà, des flèches qui montrent, les mots bien orthographiés, les notions essentielles bien mises. Il faut que le schéma apporte un plus, apporte des informations, soit informatif. On peut des fois remplacer une partie d'un texte par un schéma très bien fait, qui donne les mêmes informations.
On n'est pas obligé de répéter par écrit le schéma.
Non, pas du
tout. C'est ça que je voulais dire.
Oui, non.
Le schéma peut suffire à lui seul.
Tout à fait. Un schéma très bien fait peut remplacer un texte qui
vous
va être plus
ça,
difficile à lire.
Pauline ?
Oui, je le savais parce que j'ai fait cette erreur pendant longtemps cette année.
C'est-à-dire
dans les
que
synthèses,
vous faisiez
je faisais le schéma,
et après, le commentaire.
Je précisais au cas où. Mais c'est pas bien. Du coup, j'ai perdu des points. Et donc, voilà. Et de toute façon, c'est un gain de temps. Enfin, il faut mieux s'appliquer sur le schéma, je pense, vraiment, qu'il soit clair et pas répété, sinon le schéma sert plus à rien et en général il est mal fait. Donc...
Et pour les élèves qui ont parfois des rédactions un petit peu délicates, un bon schéma bien fait avec un petit texte en court en dessous est mieux qu'un long texte en fait, qui explique pas bien les choses.
Alors, l'immunologie, donc, puisque le bac peut être un rejet, hein, un phénomène de rejet, ou au contraire...
De compatibilité.
Alors,
nous avons choisi le sujet suivant. Montrer comment les macrophages interviennent à la fois dans la réponse immunitaire innée, tout en jouant un rôle précurseur dans la mise en place de l'immunité adaptative.
Alors, peut-être d'abord, on résume qu'est-ce que c'est que le phénomène de l'immunité, même si on voit ces variantes. Pauline, vous voulez dire quelque chose là-dessus ?
Sur le phénomène
oui,
de l'immunité.
Oui, qu'est-ce que c'est que l'immunité finalement, grosso modo.
C'est la réponse de l'organisme lorsqu'il y a une entrée de corps étranger dans l'organisme. C'est
alors,
une défense en fait.
Absolument. Et on va voir, on va répondre à la question dans un instant, mais je sors un petit peu du examen là. Qu'est-ce qui se passe donc quand il y a un organisme étranger qui pénètre dans notre corps?
C'est ce qu'on appelle une réaction inflammatoire. Mm-hmm. Donc il y a quatre symptômes qui sont douleur, chaleur, gonflement et il y a un afflux sanguin, je crois.
Une congestion.
Ouais, voilà.
Rougeur,
voilà, exactement. Et donc, y a toute une réponse qui se met en place.
Mais vous faites de la médecine là déjà. Vous êtes, c'est la vétérinaire qui embrasse tous les phénomènes du soin.
Mais c'est intéressant parce que c'est un thème qu'on n'avait pas vu avant, la terminale, du moins pas autant de façon précise. Mm-hmm. Et en général, dans ma classe, c'est peut-être un des thèmes qu'on a le plus aimé et qui a été le plus difficile, peut-être. Parce qu'il y a beaucoup de termes.
Alors je vous pose une colle. Quelle est la situation chez l'humain où finalement le phénomène de rejet du corps étranger n'est pas efficace ?
Dans quel cas ce n'est pas efficace ?
Ouais. Dans quelle situation humaine on a pourtant un corps étranger et il n'y a pas ce phénomène de rejet?
Je ne sais pas. J'en sais
tout le monde fait des gestes là, autour de nous avec une petite rondeur.
On a un enfant.
Voilà. Effectivement, donc ce phénomène est très intéressant parce que tous les phénomènes de rejet que vous allez décrire et parler sont stoppés par une situation qu'on appelle de tolérance. Immunitaire, j'entends. C'est-à-dire que, alors que l'enfant porté, même au stade embryonnaire, bien sûr provient d'un étranger, partie masculine à l'étranger, automatiquement, et même aujourd'hui, il y a encore d'autres combinaisons. Et pourtant, il n'y a pas, sauf quand on a une maladie abortive, qui se répète, mais normalement, il n'y a pas de rejet. Donc c'est tout le phénomène de l'immunité. Et on ne comprend pas très bien aujourd'hui encore, donc vous voyez, vous avez du chemin à découvrir, Pourquoi est-ce que ce phénomène de rejet n'est pas réalisé pendant la grossesse? Qu'est-ce qui modifie? Alors, maintenant, en dehors de ça, nous avons des actions de défense de l'organisme. Dites-nous quelque chose dessus.
Donc, pour répondre à ce sujet, déjà, je trouve que le sujet est assez difficile parce que ça met en... C'est faire un lien sur une notion précise entre deux chapitres qui sont assez conséquents. Donc,
c'est-à-dire les deux chapitres?
Donc, en fait, nous, on a travaillé, en tout cas dans ma classe, on a fait l'immunité innée d'un côté et l'immunité adaptative de l'autre, tout en les reliant dans la conclusion et dans l'introduction de l'immunité adaptative. Mais du coup, là, ça s'arrête sur les macrophages, donc, qui ne sont pas les seuls effecteurs de l'immunité adaptative. Et donc, la difficulté, je pense, c'est de ne pas être trop succinct, mais de ne pas trop raconter tout le cours, de faire une récitation sans répondre à la problématique.
Alors, avant que tu nous donnes le plan auquel tu as pensé, là, on est dans une situation où ce n'est pas un chapitre, mais c'est plusieurs chapitres. Et donc, il faut que le candidat, en fait, se mette un peu à scanner ce qu'il sait, en fait, pour essayer de repérer quelles sont les parties qui sont à traiter, qui se rapportent au sujet.
Et ce qu'ils disent, il faut qu'ils puissent dans plusieurs.
Voilà, et qu'ils disent, est-ce que ça va bien dans mon sujet ou est-ce que c'est hors sujet? Je le mets ou je ne le mets pas? Est-ce que j'ai bien tout mis? Est-ce que je n'ai rien oublié? D'accord. Donc c'est un peu plus délicat que l'exercice qu'on avait vu précédemment.
Donc, une réponse innée, un exemple, c'est quoi?
Un exemple. Dans le premier point, je parlerai de l'immunité innée, enfin comment les macrophages interviennent dans l'immunité innée, avec la détection des pathogènes. Donc, définir les cellules sentinelles qui sont présentes dans les tissus et qui sont capables de détecter les pathogènes, ce qui entraîne leur sécrétion de médiateurs chimiques de l'inflammation et ce qui déclenche la réaction inflammatoire qui attire et active en grand nombre des cellules de l'immunité innée. Et dans un deuxième point, je parlerai du phénomène de phagocytose, des agents pathogènes lors de la réaction inflammatoire. Donc les macrophages sont ainsi attirés sur le site de l'inflammation et réalisent la phagocytose des pathogènes. Et à ce moment-là, je pense qu'il serait bénéfique, en tout cas je pense que ça serait comme ça que je l'aurais fait, c'est de mettre un schéma du processus de phagocytose. Avec en mettant en évidence toujours les macrophages pour pas s'éloigner du sujet. Et donc dans un deuxième point, je parlerai de l'immunité adaptative avec la préparation de la réaction immunitaire adaptative après la phagocytose du pathogène. Donc les macrophages exposent des peptides antigéniques au sein du site des CMH, donc qui sont des récepteurs. Les peptides, c'est des portions de
CMH, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité.
Oui, c'est ça.
Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus, d'ailleurs?
C'est la formation d'un complexe humain donc, qui bloque... En fait, je sais qu'au niveau de la cellule phagocytaire, les macrophages, qui sont les macrophages, il y a un récepteur. Donc, je ne sais plus, je crois que c'est récepteur du CMH, je ne sais plus.
C'est-à-dire que chaque cellule, nous avons tous... Un complexe majeur d'histocompatibilité qui fait qu'on est défini par ça. Comme on peut l'être pour les groupes sanguins, les sous-groupes sanguins, on l'est là, par contre, au niveau de la cellule, par ce facteur qui est présent sur toutes les cellules. Et ce qui va faire qu'effectivement, il faut, par exemple, quelque chose que vous connaissez sur le plan de la vie quotidienne, c'est le problème des greffes. Hein, si en médecine ou en vétérinaire, on est amené à faire des greffes, en tous les cas en médecine, il faut qu'on ait un complexe d'histocompatibilité qui soit adapté.
Exactement.
Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'avoir pas mal d'élèves de première qui sont venus me voir, enfin qui demandent à me voir, je ne peux pas toujours répondre, mais sur l'histoire du bébé médicament, vous connaissez cette histoire de l'enfant qui... justement, va naître exempt d'une maladie, mais peut-être le hasard va faire, ou le choix va être au niveau des embryons, qu'il a un groupe HLA, donc d'histocompatibilité, compatible avec son frère ou sa sœur, et donc on va pouvoir utiliser ces cellules du sang du cordon pour guérir son frère et sa sœur. Donc ça a été un thème qui a été souvent pris, parce qu'il est vivant, et il montre ses problèmes de liens de rejet. Je vous ai coupé, mais vous étiez en train de rédiger votre épreuve.
Donc voilà, je parlerai de la phagocytose, de la formation d'un complexe humain qui va donc faciliter la phagocytose et donc l'élimination. Ça prépare en fait la réaction immunitaire adaptative. Et je ferai peut-être un schéma du rôle des macrophages dans l'immunité adaptative.
C'est compliqué ça, faire ce schéma, non? Vous arrivez?
Oui. Enfin, je pense qu'il n'est peut-être pas complet, mais je ferai simplement une cellule phagocytaire, un récepteur du CMH et l'anticorps lié à l'antigène et voilà.
Marie-Noël,
Pauline a dit l'essentiel, hein, les macrophages dans l'immunité innée, des cellules sentinelles, ce ne sont pas les seules, mais elles interviennent. Un rôle très important dans la phagocytose, et puis dans l'immunité adaptative, le lien entre l'immunité innée et l'immunité adaptative, en fait, prévenir les macrophages en tant que cellules présentatrices de l'antigène. On peut rajouter aussi, comme tu as dit, que peut y avoir phagocytose des complexes anticorps antigènes, sachant que cette phagocytose est plus efficace lorsqu'elle est médiée en fait par les anticorps. Là, au niveau des schémas, on a le choix. Soit on fait plusieurs schémas insérés dans la copie, soit on fait un schéma bilan général.
Mais là, par exemple, sur un thème qui est difficile, hein, parce que c'est vrai que l'immunologie, c'est pas
tout
très simple.
Tout à fait, il y a plein d'acteurs, plein de cellules.
Est-ce que vous conseilleriez aux élèves de connaître leur schéma de base, justement, parce que cela, quasiment, s'il y a une question d'immuno, on arrive à en placer un ou deux?
Oui, pour moi, en fait, les schémas, on raisonne beaucoup, enfin, on utilise pas mal les schémas vraiment dans les sciences de la vie et de la Terre. Sur les fiches que les élèves peuvent faire, il y a les plans, les définitions et les schémas. Les schémas en font partie, notamment en immuno.
D'autres choses sur l'immunologie? Vous voulez peut-être... Non, c'est vrai que dans la brochure que vous avez fait réviser son bac avec Le Monde, Sciences de la vie et de la Terre, chez les éditions Rude des Écoles, auxquelles vous avez participé, Marie-Noëlle Morin-Ganet, il y a justement des articles du journal qui sont pris comme cap sur l'immunothérapie, parce qu'il y a toute cette partie médicale, hein, c'est que la comprendre, parce qu'il y a des maladies, ce qu'on appelle, il y a des grandes maladies qui sont des maladies immunes, auto-immunes, contre soi-même, contre des parties de son corps, et donc il faut bien comprendre ces mécanismes pour pouvoir essayer d'agir, bien sûr, et même de proposer des traitements d'immunothérapie. Vaccination, c'est au programme?
Oui, tout à fait, la vaccination. Donc on voit l'évolution du phénotype immunitaire au cours de la vie et en particulier lors des rencontres artificielles avec les antigènes lors de la vaccination. On va parler des bases de la vaccination, un petit peu l'historique, on n'a pas beaucoup de temps. Et puis aussi des polémiques actuelles,
voilà,
sur
ce
la
que
vaccination.
J'allais dire. Et alors, ça se passe comment les polémiques avec les jeunes sur la vaccination? Qu'est-ce que vous en dites, Pauline?
Moi, j'ai pas vraiment d'avis sur la question en fait, mais je sais que quand on a abordé ce thème, il y a certaines personnes dans ma classe qui, enfin, oui, il y a tout le monde a un avis, enfin, à peu près sur ça. Il y a des familles qui, il y a des enfants dont les parents n'aiment pas les vaccins, donc on en parle un peu, mais.
Mais tout le monde est vacciné.
Oui, en général, plus ou moins, mais. Mais voilà, mais on en parle, c'est intéressant, mais on n'a pas beaucoup de temps, on ne reste pas beaucoup de temps là-dessus.
Bien sûr,
en fait.
Bien sûr. Non, mais c'est une amorce, ouais. Quoi, d'un débat de société, puisqu'il va y avoir un certain référendum, enfin une sorte de prise de position, de pouvoir
discuter. Alors c'est vrai que l'immunologie se prête à tout ce qui est prolongement vers la médecine, donc vaccination, sida, immunothérapie, on l'abordera pas en terminales, mais on peut juste en parler comme ça. Et aussi les maladies auto-immunes, on peut avoir des exercices sur la sclérose en plaques, la myasthénie, qui peuvent tomber. Ça ne demande pas des connaissances particulières sur ces maladies, mais il faut savoir les traiter. Tout ce qui est tests de détection aussi, test ELISA, test d'Ouchterloni, plus scolaire, et puis des tests de détection de la grippe, des choses comme ça, peuvent tomber en fait au baccalauréat.
Oui, vaste sujet, effectivement. De faire un diagnostic immunitaire, par exemple, chez un enfant, ce qui était un des thèmes que vous abordez parfois, ou bien chez les jeunes filles, les vaccins contre le cancer du col de l'utérus, qui est assez récent, hein, qui a aussi, bien sûr, cette polémique, mais qui semble quand même, je dirais...
Tout bénéfique.
Bénéfique, ouais. Voilà, pour ce qu'on voit réellement.
Je pense qu'aussi qu'on montre aussi aux élèves, et c'est là l'intérêt de la biologie, c'est que le rapport entre les sciences, la société, les scientifiques évolue. On n'a pas la même demande qu'il y a 30 et 40 ans. La société civile veut savoir de quoi il en retourne, quels sont les risques, quels sont les inconvénients. C'est ce qu'on voit aussi dans la vaccination.
Oui, oui, non, mais ça, c'est... Effectivement, on ne déverse pas le savoir, on l'échange. Oui. Et il peut y avoir des questions ou des interrogations qui mettent en difficulté peut-être certaines idées reçues, oui, mais qui sont nécessaires à la bonne marche des choses.
Et nous, le but, en fait, de nous, en tant que professeurs, c'est que de préparer le bac, c'est important, mais aussi de fournir aux élèves une culture scientifique pour être aptes, en fait, à comprendre ces questions qui les concernent.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur un troisième sujet ? Il nous reste peu de temps, mais quand même, élément essentiel sur le lien entre neurones et muscles, par exemple.
Oui, donc on a pris un troisième sujet, toujours axé sur l'organisme et la santé, sur la communication nerveuse. Alors, le sujet est le suivant, décrire les différents éléments mis en jeu dans le réflexe myotatique, puis préciser les caractéristiques des messages nerveux propagés par ces éléments. Je voulais juste préciser que souvent, dans les énoncés pour les élèves, souvent, il va y avoir un « puis » et un « et » qui va être une indication assez claire du plan qu'il faut faire. Donc, toujours cette importance
par
de
exemple,
bien
ici.
Lire. Donc ici, Pauline, qu'est-ce que tu nous ferais là-dessus ?
Par exemple, donc c'est décrire les différents éléments mis en jeu dans le réflexe myotatique. Donc ça, c'est une première partie. Le puis, donc, puis préciser les caractéristiques des messages nerveux propagés par ces éléments. Ça fait une deuxième partie.
Il faut préciser que Pauline n'a pas travaillé encore le sujet.
Je viens de commencer ce chapitre qui a l'air intéressant.
La méthodologie est importante parce, ouais, que déjà, avec ça, tu évites d'aller dans le mur.
Donc, comme a dit Pauline, on prendrait en première partie le réflexe myotatique, décrire l'arc réflexe. Je ne vais pas tout décrire ici, mais là aussi, au lieu de faire un texte qui serait relativement long, un schéma vraiment bien proprement fait, bien complet, bien légendé, serait tout à fait approprié.
Mais oui.
D'ailleurs, dans le sujet qui était posé, on demandait en fait de faire un schéma de l'arc réflexe. Donc, ce n'est pas la peine de tout réécrire. Et puis dans la seconde partie, donc, les messages nerveux qui sont propagés lors du réflexe myotatique, on va faire une différence entre les messages nerveux au sein des axones, des neurones sensoriels ou moteurs. Ce sont des messages qui sont électriques, des séries de potentiels d'action dont l'intensité est codée en fréquence de potentiel d'action. Et puis au niveau de la synapse neuromusculaire ou de la synapse entre les deux neurones, là on est sur un message nerveux de nature chimique, il faudra décrire ce qui se passe, avec une intensité qui va être codée en concentration de neurotransmetteurs au niveau de la synapse. Vraiment les points essentiels sur ce sujet.
Bien, avant que nous nous séparions, parce que une heure ça passe vite malgré tout, un petit message à vos amis élèves de première, où qu'ils soient dans ce pays.
Bon courage, c'est ce que je pourrais dire en premier. Que l'épreuve des étés, c'est vraiment pas la plus difficile, selon moi. Il faut bien apprendre le cours, mais pas l'apprendre bêtement. Je pense qu'il faut le comprendre avant tout, et comme ça, quel que soit le sujet, on peut réussir. Et voilà, bonne chance à tous.
Bien, Marie-Noëlle Le Morin-Gané.
Moi, j'irai aux élèves déjà de s'intéresser à ce qu'ils font, parce que c'est quand même une partie qui est intéressante, la biologie, puis ça les concerne dans leur vie de tous les jours.
Voilà, ça concerne la vie de tous les jours, donc on peut sortir du scolaire pour s'agripper à la réalité de la vie. Voilà, cette émission de René Friedman a été préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, réalisée par Dany Journoux, avec Philippe Palares à la prise de son. Révolution médicale est une des émissions de la tranche science de France Culture qui sévit tous les jours de 16h à 17h. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de franceculture.fr et sur le site de notre partenaire, le quotidien du médecin.fr. Nous avons reçu aujourd'hui Marie-Noëlle Morin-Ganet et Pauline Bertin et nous aurons des nouvelles du bac de Pauline dans quelques temps. Nous allons suivre ça de près. Demain, vous avez rendez-vous avec la Dream Team de Culture Science, en la personne de Sylvain Kahn, qui va présenter Planète Terre. Et je vous retrouve la semaine prochaine sur France Culture.